Bonjour, ici Radio Grand Ciel dans notre studio de Châteaudun. J'aperçois au loin Jean-Marie à la technique et c'est Henri qui cause. Et nous accueillons aujourd'hui Monsieur Emmanuel Humeau. Bonjour Monsieur Humeau.
Bonjour à tous.
Qui va nous parler dans notre émission ensemble d'une association, d'un établissement qui s'appelle Top Service. C'était un établissement qui m'intriguait un peu parce que quand je passais en vélo dans la région de Châteaudun, sur le plateau du côté du nouveau quartier, là où il y a un certain nombre d'industries, un carrefour, il y avait Top Service. Alors, je suis allé frapper à la porte et M. Humeau a bien voulu venir nous rendre visite à notre petit studio Châteaudun Radio Grand Ciel pour nous parler donc de cette... c'est une association, on dit, ou une entreprise?
C'est une association, justement, pour que je fasse attention à ne pas être une entreprise. Ça m'enlèverait certains avantages.
Alors, c'est une association. Alors, par ailleurs, je vous présente un petit peu. Vous êtes un Tourangeau d'origine, vous êtes dunois depuis 20 ans, et vous êtes en particulier professeur de sciences économiques, sociales et politiques au lycée Zola de Châteaudun. Alors, voyons voir. Top Service, dites-nous un peu depuis combien d'années déjà?
Alors, Top Service, c'est donc une association d'insertion par le travail qui est née au début des années 90 dans le quartier Beauvoir, qui est le quartier HLM de la ville de Châteaudun. Et moi, j'en suis le président depuis, je crois, une douzaine d'années. Maintenant, je crois que c'est ça. C'est une association donc, dont le but est de trouver des emplois et une activité pour des personnes qui ont été durablement éloignées de l'emploi et qu'il faut reformer, voire dans certains cas réapprendre les règles du travail pour pouvoir ensuite les réinsérer sur le marché du travail et avec un peu de chance les réinsérer directement dans des activités, dans des entreprises.
Donc depuis 12 ans que vous présidez au destiné de cette association, vous avez accompagné environ par an combien de personnes?
Alors on a, ça dépend des années, et puis on a eu des fluctuations dans l'activité. On a à peu près 30 à 40 personnes en insertion chaque année. Et l'association tourne aussi avec 4 à 5 permanents qui accompagnent justement ce public en insertion.
Ah oui, 4 à 5 permanents, c'est conséquent pour...
c'est une grosse association.
Votre entreprise, oui. Et alors, mais d'où viennent ces personnes en recherche d'emploi? Leur âge et leur... d'où viennent-ils, oui?
Alors, normalement, l'objectif, il est quand même de recruter localement, et notamment dans le parc HLM, hein, sur les travailleurs qu'on veut reformer. Ça n'empêche pas qu'on a un public qui peut venir de pratiquement tout l'arrondissement dunois, sauf qu'il y a souvent des problèmes de mobilité. Hein, on a des gens qui n'ont pas nécessairement de véhicule, et surtout qui n'ont pas nécessairement le permis. Donc c'est avant tout un recrutement local. On a des jeunes... Mais on n'est pas la cible privilégiée de nos partenaires comme Pôle emploi pour l'insertion des jeunes, parce qu'il y a d'autres associations ou d'autres structures comme la Milos à Châteaudun qui sont prioritaires sur ce public des jeunes. Ça n'empêche pas qu'on en reçoit et qu'on en reçoit de plus en plus, surtout qu'on fait de la préqualification, de la préformation. Et sinon, on a un public. Alors, on a un public qui est mixte. C'est-à-dire qu'on a des femmes et on a des hommes qui sont souvent, on va dire, entre 30, 40, 50 ans. Et qu'on va, orienter soit vers des petits travaux, ménage, tonte de jardin, des choses comme ça, soit vers des chantiers peinture. Alors, sur mes chantiers peinture, j'ai plus d'hommes que de femmes. Sur les services à la personne, j'ai plus de femmes que d'hommes.
Et pour ces chantiers, vous arrivez à avoir suffisamment de personnes qui s'adressent à vous pour... vous êtes suffisamment connu pour qu'on dise, tiens, j'ai quelques petits travaux à faire chez moi, à l'autre service.
Alors évidemment, j'aimerais bien avoir plus de clients encore, parce qu'on fonctionne un petit peu, j'ai dit qu'on était une association, mais on fonctionne malgré tout un petit peu comme une entreprise. Alors j'expliquerai peut-être la subtilité, il y a une petite subtilité. L'année dernière, on a été largement excédentaire sur notre budget. Donc oui, on peut dire qu'on a assez de clients. En tout cas, l'année dernière, on avait assez de clients. Cette année, ben, on verra à la fin du mois de décembre si ça a été toujours aussi bon. On a des clients qui sont des particuliers, on va dire comme vous et moi, hein, pour les travaux de tonte, pour les travaux d'entretien, pour les travaux de ménage. Mais on a aussi des institutionnels. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup avec l'office HLM, enfin l'OPHLM du Noir. Et on travaille aussi beaucoup avec la prison et notamment le gestionnaire qui s'appelle GEPSA à l'intérieur de la prison, qui nous donne la réfection en peinture, par exemple, de certains locaux.
Alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est, du moins les particuliers, c'est déduit un peu de nos impôts.
Ah oui, comme n'importe quel don aux associations. Hein. C'est-à-dire que je ne me rappelle plus, évidemment.
C'est dans la rubrique service à la personne.
Voilà.
Voilà. Oui, tout à fait, c'est intéressant. Mais vous disiez que ces personnes de 30, 40, voire 50 ans, en fait, avaient du mal à avoir de la motilité. Mais si les particuliers sont un peu loin, comment ça se passe? Alors, ils viennent les chercher?
J'y avais pas pensé, c'est une bonne idée. Mais non, alors c'est rare, non, ils ne viennent pas les chercher. Si on fait donc du service à la personne, en règle générale, on va avoir, pour l'instant, on est sur du local. Ça n'empêche pas que j'ai beaucoup de véhicules dans mon association, que j'ai deux encadrants techniques et un conseiller en insertion qui peuvent prendre du temps pour emmener les travailleurs chez les personnes. Ça n'empêche pas, surtout sur un recrutement local. Mais j'ai tout ce qu'il faut avec un problème de gestion de l'emploi du temps, évidemment, hein, mais pour déplacer mes travailleurs.
Et donc... Donc actuellement, donc vous avez une trentaine, quarantaine de...
Alors actuellement, on doit être sur, on va dire une quinzaine, parce que
une quinzaine de travailleurs.
On est sur une quinzaine de travailleurs parce qu'en fait, on est aussi sur des contrats souvent de 6 mois. Ce qui fait que l'objectif de l'association, c'est de prendre quelqu'un pendant 6 mois, de le former, de lui réapprendre le travail, mais ensuite aussi de lui redonner une certaine crédibilité pour qu'il puisse re-rentrer directement dans une entreprise. Donc l'idéal pour nous, c'est donc de le prendre sur 6 mois. Il a un accompagnement qui est fait par un conseiller en insertion professionnelle qui s'appelle Julien Grosse, qui est rentré dans l'association il y a peu de temps, il y a 2 ans, et qui est vraiment très très bon sur ce qu'il fait, et donc qui accompagne comme ça les travailleurs, mais qui est chargé aussi de contacter les entreprises pour proposer les services. Et donc on fait une sorte de tampon, si vous voulez, ou de minimisation des risques auprès des entreprises, parce qu'on arrive à détecter si un profil est sérieux ou pas. Donc on a ça nous arrive souvent, on pourrait en parler après, mais on a souvent des entreprises qui ont pris l'habitude comme ça de travailler avec nous et qui nous appellent dès qu'elles veulent recruter quelqu'un. Et accessoirement, à chaque fois que nous, on réinsère comme ça quelqu'un professionnellement, on a des sortes de primes, si vous voulez, de la part de l'État, une sorte de récompense pour un travail bien fait dans l'accompagnement à l'insertion.
Parfois, en fait, ces stages, on peut faire 2 fois 6 mois si nécessaire.
Oui, on peut le faire. Je crois qu'on a été aussi un petit peu plus loin. Alors, on se fait taper sur les doigts par les services de l'État, parce qu'on doit rendre des comptes aux services de l'État. Donc
oui, bien sûr, oui.
Parce qu'on reçoit des subventions, donc il faut quand même qu'on
c'est normal,
rende des comptes. Oui. Donc oui, souvent, on reconduit quand même des contrats. Alors, je ne me rappelle plus le nombre de fois où on peut le faire, on reste quand même dans la légalité, hein. Mais l'objectif, c'est justement de ne pas le faire, c'est-à-dire réinsérer le plus vite possible quand même dans le monde du travail.
Eh bien, faisons une petite pause musicale, tout doucement. Thank you. entretien dans notre émission Ensemble avec M. Emmanuel Humeau, qui est le président de l'association Top Service, une association d'insertion pour personnes qui ont 30, 40, 50 ans, des hommes et des femmes, surtout des hommes, surtout des femmes.
Ah, c'est moitié-moitié. C'est équitablement réparti.
Et ils, quand ils travaillent, ils arrivent à travailler toute une journée ou simplement par demi-journée?
Alors, ça, en fait, on a, si je ne vous raconte pas de bêtises, il faut qu'ils travaillent 80% d'un temps normal. Et à côté de ça, il y a comment dire, des ateliers ou des choses comme ça qui sont mises en place aussi. Donc oui, ils peuvent travailler toute une journée. Ça n'empêche pas que ça ne va pas être une gestion qui va être comme celle d'une entreprise normale. Et en même temps, comme on fait des interventions chez plusieurs particuliers, ça pose pas un gros souci, parce que, par exemple, la tonte d'un jardin va prendre 3 heures, on dépêche quelqu'un pour 3 heures chez un particulier, et puis après, il peut y avoir un temps mort, et puis ça reprend chez quelqu'un d'autre. Donc, c'est jamais qu'un gros problème d'emploi du temps.
Et par rapport à le pourcentage de personnes individuelles particulières qui font appel à vous, c'est par rapport à...
Par rapport au chiffre d'affaires ?
Aux entreprises, c'est ça qui, oui. Par ailleurs, comme le centre de détention, où vous intervenez pour repeindre des locaux avec vos...
Si vous voulez, c'est là que c'est compliqué. L'association Top Service, elle repose en fait sur, on pourrait dire, deux types d'associations. D'un côté, dans mon association, il y aurait une sous-association de mise à disposition de personnel, ce qu'ils appellent la MAD. Et dans ce cas-là, je ne fais pratiquement que du particulier... c'est-à-dire donc on va prendre des travailleurs, on va les emmener chez les particuliers, ils vont faire des menus travaux. Je peux avoir aussi des entreprises dans ce cas-là, mais c'est pas le plus important. Et de l'autre côté, l'autre sous-association qu'il y a dans Top Service, c'est ce qui s'appelle une association chantier d'insertion, et auquel cas on travaille avant tout pour... alors je peux travailler pour des grandes entreprises... Mais je vais travailler surtout donc pour JEPSA à la prison ou pour l'office HLM. Et dans ce cas-là, on fait surtout de la peinture. Ce qui fait que, d'un côté, j'ai une sous-association qui travaille avec des institutionnels. Et de l'autre côté, j'ai une autre sous-association qui travaille surtout beaucoup avec des particuliers. Sur l'ensemble du chiffre d'affaires, c'est variable d'une année sur l'autre. Je pense que l'année dernière, on était à peu près à peut-être 40% de mon chiffre d'affaires qui provenait de particuliers et 60% qui provenait d'entreprises ou de ça peut être d'autres associations ou d'autres, les collectivités, entre parenthèses, parce qu'on travaille aussi pour les collectivités.
Et c'est toutes ces personnes qui font appel à vous, c'est très proche de Châteaudun ou un peu plus loin, ça, vous étendez jusqu'où?
Alors, sur des chantiers peinture, on peut aller relativement loin. C'est-à-dire que ma zone, en fait, qui se renégocie tous les ans, Elle va de Brou jusqu'à Pathé, et elle va, on va dire, de Marboué jusqu'à Cloix. Mmh. Bon, pratiquement la... Pas non plus maintenant, j'allais dire pratiquement la quatrième circonscription, mais elle va quand même beaucoup plus loin, la quatrième circonscription, mais ça fait quand même une zone géographique qui est assez importante.
Et ces associations de services, c'est un peu partout en France et...
Alors, il y en a plusieurs. Hein, sur Châteaudun, par exemple, il y a une autre association qui fonctionne très bien, qui s'appelle Dunois-Perche Insertion, qui est aussi axée beaucoup sur les espaces verts, l'entretien des berges, et qui, elle, travaille sous forme de chantier d'insertion, hein, ce que j'ai présenté tout à l'heure. Sur Bonneval, si je ne raconte pas de bêtises, il doit y avoir l'association Retravailler. Il y en a partout, en fait. Sur Chartres, il y en a énormément. Hein, sur Dreux aussi. Et alors, on n'est pas le territoire, surtout au sud de l'Eure-et-Loire, on n'est pas le territoire où c'est le plus développé. Parce que, peut-être culturellement ou historiquement, peut-être que la confiance envers ces associations d'insertion n'est pas très développée. Il y a des territoires qui sont, je pense, sur Nogent-le-Rotrou, par exemple, il y a une association qui est très puissante, qui s'appelle le Comité de Bassin d'Emploi Nogenté, qui fait aussi, comme nous... Hein, je crois, et de la mise à disposition et du chantier d'insertion, et qui est quand même beaucoup plus développé, avec des liens beaucoup plus forts auprès des collectivités.
Et vos travailleurs, vos travailleuses, de temps en temps, se croisent dans votre centre où vous gérez. Est-ce que vous organisez de temps en temps des petits repas communs? Parlez-nous de l'ambiance.
Alors, il aurait fallu que ce soit mes salariés qui viennent, c'est-à-dire que moi, je suis jamais que le président. C'est pas moi qui dévoile plus. À côté de ça, de ce que j'ai pu voir dernièrement, ils mangent déjà ensemble le midi. C'est-à-dire les permanents et les non-permanents qui le souhaitent peuvent manger ensemble. Donc, oui. Hein, vous avez vu le local, il est relativement oui. grand, hein, le local de l'association Top Service, on en est propriétaire.
Et chacun amène sa gamelle, alors.
Par contre, chacun amène sa gamelle.
Oui, oui, oui.
Et il y a une salle, c'était mon bureau, on a abattu une cloison, donc c'est beaucoup plus grand maintenant. Et cette salle fait office de salle de restauration, mais aussi de salle de formation. Et on la met à disposition, entre parenthèses, d'autres associations qui pourraient en avoir besoin, parce qu'il y a des associations qui n'ont pas beaucoup de locaux, ou qui ont des problèmes de locaux. Et alors, c'est vrai, vous avez raison, qu'on pourrait le faire, d'organiser peut-être des réunions un peu plus festives comme ça avec les salariés. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup fait, si ce n'est quand il y a l'Assemblée Générale ou quand il y a, on va dire, le sapin de Noël avant les fêtes.
Ah oui, quand même. Donc il y a une... On sent qu'il y a une... Le peu qu'on voit, c'est une bonne ambiance. Hein,
il y a une bonne ambiance. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu un petit creux. Mais il faut dire la vérité, depuis 3 ans... Il y a une très bonne ambiance. C'était le cas avant aussi, hein, à l'époque où le directeur, par exemple, c'était Monsieur Cabois, le président, c'était Monsieur Leclerc. Il y avait Annabelle aussi, qui était la conseillère en insertion. Il y avait une bonne ambiance. Il y a eu un petit creux. Là, maintenant, il y a une très bonne ambiance parmi les permanents. Cette bonne ambiance parmi les permanents, donc il y a un conseiller en insertion, mais il y a aussi une coordinatrice qui s'occupe de la gestion. Il y a un encadrant technique. Il y a un salarié polyvalent. Il y a une hôtesse d'accueil. Il y a une très bonne ambiance parmi ces 5 personnes-là. Et ça se ressent après aussi auprès des salariés. Et c'est important parce que l'objectif de l'association, c'est quand même de montrer que normalement, une entreprise, c'est un lieu où il y a des liens sociaux qui peuvent être assez forts. Et donc, leur montrer que on peut aimer travailler simplement parce qu'il y a un espace de sociabilité qui peut être important, qui fait du bien au moral aussi. Donc j'espère, mais je crois que c'est le cas, j'espère qu'il y a une bonne ambiance tout le temps dans l'association et que ça se ressent auprès des salariés qui ne sont pas permanents, des salariés qui passent comme ça de notre public d'accueil.
Oui, ça aide à mieux faire son boulot. Hein.
Ah, c'est important, hein, l'ambiance au travail, c'est important. Accessoirement, je sors d'un cours à l'Institut en soins infirmiers, un cours que je donne sur la relation entre le soignant et le soigné. Et justement, je montre aussi pour les infirmiers que l'ambiance, la dynamique de groupe dans un service, elle est très importante sur la manière après, elle impacte fortement la manière dont on va travailler. Et c'est ce qui est valable dans ce service hospitalier, dans un service hospitalier, évidemment valable après dans n'importe quelle entreprise.
Oui, ça se transpose. Chez les humains, il y a beaucoup de transpositions valables, hein, quel que soit le milieu où on se trouve. Hein. Et ces 2 années de confinement, là, sanitaires ne vous ont pas trop comment ont été vécus.
Alors, ça a été, faut dire la vérité, mais je pense que ça a été le cas pour beaucoup d'associations. Ça a été un grand stress au départ, parce qu'on s'est demandé ce qui allait se passer. On n'avait pas d'informations sur la durée du confinement. Et à côté de ça, j'ai eu, alors je ne sais pas si ça a été le cas dans les autres associations, mais moi j'ai eu beaucoup de chance dans la mienne. C'est-à-dire que j'ai eu des salariés qui ont été volontaires. On a eu très peu de salariés non permanents qui n'ont pas voulu venir travailler. Et c'est là que c'est important, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas se permettre de rémunérer grandement non plus nos salariés. On n'est pas une entreprise privée, hein. On est comme toutes les associations, on a des budgets qui sont très serrés. Mais à côté de ça, c'est là qu'on voit l'importance d'avoir une occupation aussi dans la journée. Et donc, on a la plupart de nos salariés qui sont venus travailler. Parallèlement, on a eu un très bon accompagnement de la part des services de l'État. C'est-à-dire qu'on dépend grandement des subventions. Alors, j'ai plus en tête, hein, ce que représentent les subventions dans mon chiffre d'affaires, mais beaucoup de mes travailleurs sont subventionnés. C'est-à-dire que pour qu'on puisse offrir un service à peu près compétitif, il faut qu'on ait des subventions. Et ces subventions, elles ont continué à être fournies par les services de l'État, plus le processus de chômage partiel qui a été mis en place, qui fait que financièrement, on a été très, très peu impacté. Donc, on n'a pas si mal vécu que ça, la période de confinement, surtout qu'on a réussi à s'en sortir avec un budget excédentaire à la fin. Donc, ça a été.
Et parmi les personnes que vous accompagnez, c'est sur le plan familial, ce seront des personnes en famille ou surtout des personnes seules ?
Ah, c'est une bonne question. En fait, c'est très variable. On a quand même et notamment du côté de notre personnel féminin, on a beaucoup de familles monoparentales.
Oui. Alors, nous allons faire une petite pause avant de nous retrouver pour la troisième partie. Nous allons terminer notre entretien avec Monsieur Humeau, Emmanuel, qui nous a parlé donc de Top Service pour, pendant quelques minutes, l'interroger aussi sur sa casquette principale, je crois, ou il me semble, à savoir qu'il est professeur à notre lycée Zola avec toute une spécialité intéressante, parce que c'est la sociologie et la politique et l'économie. Et vous vous dites vous-même qu'on a tort de ne pas venir vivre à Châteaudun parce qu'on a vraiment au lycée des élèves très attentifs et c'est très, très intéressant. Racontez-nous.
Alors, vous avez raison. Alors, il y aura toujours des problèmes avec quelques élèves dans un établissement scolaire. Mais accessoirement, le lycée Misola, le collège aussi, entre parenthèses, sont caractérisés par le fait qu'on a un public qui est plutôt calme, qui se comporte bien, qui est grandement respectueux des professeurs. Et si on est resté à Châteaudun aussi avec ma femme, il y a une qualité de vie à Châteaudun, on est dans une petite ville, mais qui offre quand même beaucoup de services. Et puis avec un immobilier qui est abordable aussi, faut en parler. Et à côté de ça, parce que moi je suis père de famille, le fait aussi qu'on a des établissements scolaires qui sont de grande qualité et qui sont quand même très bien tenus. Moi j'ai fait, je dis un aparté comme ça, mais j'ai fait une réunion hier, parce que j'ai une classe spéciale en seconde, j'ai fait une réunion hier avec le principal de Thomas Divy et le principal aussi du collège Anatole France.
Et dans la zone périphérique, ouais, voilà. un peu moins lotie sur le plan social.
Ouais. Oui. Et qui était vraiment très très investi aussi dans le fonctionnement de leur établissement. Et on a eu un dialogue qui était quand même très constructif. Et on a de très bons, comment dire, une très bonne insertion en fait de tous les collégiens, que ce soit Zola, Thomas Divy, Anatole France, dans le lycée Zola par la suite. Et à côté de ça, ça donne un lycée qui a toujours eu d'excellents résultats, avec très peu de problèmes, et puis avec des professeurs qui sont quand même motivés, ce qui fait qu'il y a une bonne ambiance, et tout ça, ça crée une très bonne dynamique.
Alors là, je pense que notre maire est président de la Comcom sera très heureux lorsque il entendra toutes ces nouvelles.
Parce oui, alors je n'ai pas voulu faire forcément sa communication, mais oui, d'une certaine manière, oui.
Oui, parce que vous-même, vous avez un temps été investi dans notre municipalité.
Oui.
Du temps de Didier Huguet.
Oui, oui. Voilà, oui, j'étais adjoint à l'économie. Ce n'était pas la période la plus facile, c'était la crise de 2008. On avait déjà eu en partie la fermeture de la base, on a eu la fermeture de Flextronix. Ça a été terrible pour beaucoup de familles hein, sur le territoire. On l'a ressenti, entre parenthèses, un petit peu au lycée. Et ça a été une période vraiment très, très, très compliquée, sachant qu'on n'a pas eu, comme ce qui s'est passé avec la crise Covid à l'époque, un grand plan de relance pour accompagner l'emploi. Tous les Dunois qui sont là depuis au moins 20 ans ont vu quand même l'impact que ça a pu avoir, cette crise, et le départ de Flextronix, hein, entre parenthèses, sur la situation globale du territoire.
Voilà. Alors, quel message pour terminer, pouvez-vous nous laisser? On voit que vraiment vous avez de plusieurs casquettes, une grande expérience déjà hein, dans plusieurs domaines de du tissu dunois, du tissu donc de la vie dans le dunois.
Moi, si j'ai un message à laisser, hein, je le vois, c'est auprès de mes jeunes collègues, entre parenthèses, des établissements scolaires. C'est vrai que c'est particulier. Quand on est muté à Châteaudun, je me rappellerai toujours la première fois où je suis arrivé comme ça par la route d'Orléans. C'était au mois d'août et puis évidemment les champs avaient été fauchés. C'est vrai que ça fait... C'est terrible d'une certaine manière quand on arrive. Il n'en reste pas moins qu'on a un territoire qui a de très jolis paysages. Hein, si on va un petit peu vers l'ouest de Châteaudun, en direction de Vouvray ou un peu au sud, en direction de Mémillon, des choses...
La
vallée du Loir et de la Conie, c'est magnifique. On a quand même un territoire où il y a une délinquance qui est très faible au regard de ce qui peut se passer dans les grandes villes. Il faut quand même le relever. On a un territoire où il y a très peu de problèmes dans les établissements scolaires. Ah, effectivement, pour quelqu'un de jeune qui vient d'une ville comme Orléans ou Tours, c'est particulier. Peut-être que de prime abord, ça manque un petit peu de dynamisme. Mais au bout du compte, il manque pas grand-chose pour être heureux dans une ville comme Châteaudun. Nous, on y est resté avec ma femme. On y restera, je pense, pendant très longtemps, parce qu'on ne trouvera jamais cette qualité de vie. Alors, je sais que Monsieur le maire, vous parliez de Monsieur le maire tout à l'heure, veut mettre en avant le dynamisme de la ville de Châteaudun. Nous, inversement, dans ma famille, le point positif, c'est le calme qu'il peut y avoir aussi dans ce territoire où on peut aller faire ses courses sans jamais faire la queue, où on peut se déplacer d'un point à un autre en 5 minutes. C'est formidable. Quand je retourne voir ma famille sur Tours, par exemple, Je suis dans une colère noire à chaque fois que je suis dans un bouchon à l'entrée de l'autoroute. Donc voilà, donc moi je dis inversement, et on le voit entre parenthèses sur le lycée Zola, on a eu une arrivée pendant la période Covid, on a eu une arrivée de familles parisiennes qui ne supportaient plus en fait la vie en appartement dans une grande agglomération ou dans la capitale, et qui sont venus s'installer là, et qui, a priori, sont quand même, j'ai pu en discuter avec certains d'entre eux, sont quand même plutôt heureux d'être venus s'installer ici, sachant que la plupart des services sont fournis localement.
Alors, merci beaucoup pour être venu et pour votre témoignage.
C'est moi qui vous remercie.